Nous allons demander la bénédiction de Dieu sur notre soirée. Ô Père, une fois de plus, sous ton regard, nous venons te demander que tu nous fasses éprouver à tous la présence bénie de Jésus au milieu de nous. Que nos yeux s'ouvrent et qu'il nous soit donné de le voir. Que nos oreilles soient attentives et que nous puissions l'entendre et que nos cœurs soient pleinement réceptifs pour accueillir avec douceur cette parole qui a la puissance de transformer notre existence et de nous donner dans la course la joie de vivre entièrement pour celui qui pour nous est mort et a été ressuscité. Que ce soir, tu puisses triompher dans chacune de nos vies et que quelque chose de définitif soit opéré par la puissance de ton esprit et cela d'une manière irréversible pour ta seule gloire. Amen. Mes bien-aimés, en ce 12 août, nous désirons vivre encore cette heure dans la présence de Dieu. Et je voudrais tout de suite vous lire quelques versets de l'Écriture sainte dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2e, cette déclaration que nous voulons recevoir dans la foi. Verset 10. Déjà au verset 9, ce qu'il est dit du Seigneur, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons dit que vivre dans la présence de Dieu, c'était vraiment vivre en Christ. Et ici, nous apprenons que dans le Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelle délivrance! Délivrance de nos fautes, de toutes nos fautes. Délivrance du joug de la loi qui nous condamnait. Délivrance du pouvoir du péché. Délivrance de la puissance de Satan. Nous sommes, selon l'Écriture, associés au triomphe de la croix. Je lis maintenant dans la deuxième épître aux Corinthiens. Demandons toujours à Dieu que ses paroles s'inscrivent définitivement dans nos cœurs. Verset 5 du chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans ces paroles de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Si C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Et je termine ces lectures par quelques versets dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3e. Les choses, verset 7, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose, et qu'il nous soit donné ce soir de faire une chose. Oubliant ce qui est en arrière, voulez-vous le faire ce soir? Ou serez-vous encore empoisonné par tout ce qui est en arrière? Oubliant ce qui est en arrière, et me portons vers ce qui est en avant. Est-ce que nous sommes décidés d'avancer? Dans le Christ. S'il en est ainsi, alors nous courons. Je cours vers le but. Et ce but, nous l'avons montré sur ce tableau, et cette course, elle commence où? À Y. C'est là que commence la course. Elle va jusqu'à Z. C'est ce chemin-là. Devenus enfants de Dieu, nous pouvons courir cette course, entrant déjà en possession de toutes les richesses qui sont en Christ, de toutes ces bénédictions célestes, et nous marchons vers le dessein de Dieu qui s'accomplira pleinement lorsqu'il nous fera régner avec lui. Nous allons courir cette course. Et c'est cela qui est réellement le chemin de croix que nous avons à poursuivre. nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Ce n'était pas à cela que le Seigneur nous destinait. Il nous avait créés pour que nous parvenions à sa gloire. Hélas, au lieu de nous approcher de l'arbre de vie et de nous nourrir de cet arbre, Adam, notre père terrestre, a pris le mauvais chemin et s'est nourri de ce fruit défendu, pensant obtenir ainsi l'indépendance, poursuivant un but à lui, et il a échoué. Ce fut la chute. L'homme n'est devenu que chair. Mais dans sa grâce, Dieu alors a incorporé le plan de la rédemption qui était préconnu dès avant la fondation du monde. Il a incorporé ce plan de la rédemption à son plan initial et le but de Dieu s'accomplira quand même. Par l'œuvre du Christ, en recevant le Christ, nous devenons enfants de Dieu. Mais ce que nous devons bien comprendre, c'est que dans son amour, Dieu ne nous a pas sauvés simplement pour nous faire éviter l'enfer, c'est pas ça le but du salut. Il nous a sauvés pour que nous puissions réaliser le plan divin et que son but qu'il s'était proposé, le but de Dieu, se trouve pleinement accompli en nous. Et j'espère que cela, vous l'aurez bien compris, ça change complètement notre vision et notre prédication. Nous ne prêchons pas aux âmes simplement pour qu'elles n'aillent pas en enfer. Nous n'insistons pas auprès d'elles pour qu'elles acceptent le Christ, afin qu'elles soient bénies dans la vie terrestre et qu'elles aient une éternité au paradis, mais nous prêchons le Christ pour que le dessein de Dieu à l'égard de l'homme, à l'égard de sa créature, puisse se réaliser dans l'homme. Est-ce que nous comprenons cela? Devenus enfants de Dieu, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous devenons réellement la possession de Dieu. Et désormais, nous n'avons plus qu'une pensée, vivre pour Dieu. Et nous n'avons plus qu'un désir, courir cette course de Y à Z, si j'ose dire ainsi. Ici, c'est l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Ça, c'est l'œuvre de la croix, de X à Y, l'œuvre de la croix. Et maintenant que nous sommes là, c'est le chemin de la croix que nous suivons. Le seul chemin de la bénédiction, c'est le chemin de la croix qui nous conduit réellement à l'accomplissement du dessein de Dieu dans nos vies. Mes bien-aimés, les heures que nous allons passer ensemble, elles sont déjà comptées. Aussi, je sens que j'ai à me tenir très près du cœur de Dieu pour que je ne vous cache rien des choses qui pourraient vous être profitables, vous annonçant tout le conseil de Dieu, comme le disait l'apôtre Paul, lorsqu'il réunit à Milet les anciens d'Éphèse. Le Seigneur ne voulait pas que je me borne à vous prêcher la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus. Paul avait commencé ainsi à Éphèse, mais il dit qu'il ne s'était pas arrêté là. Je vous ai présenté la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus. Mais il ajoute ensuite, je vous ai présenté tout le conseil de Dieu. Ce conseil de Dieu dont nous nous sommes entretenus, ce dessein éternel de Dieu qui voulait, en créant l'homme, avoir un fils, avoir des fils semblables à son unique et à son bien-aimé. Dieu veuille que tous ici vous ayez reçu cette grâce de la repentance. Car voyez-vous, la repentance, on ne la fait pas. La repentance, c'est encore Dieu qui la donne. Vous lisez cela dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres. Quand Pierre raconte à Jérusalem pourquoi il est allé chez Corneille, alors qu'on le critique d'être allé chez un païen et d'avoir mangé avec lui, eh bien, une fois que Pierre a pu exposer en détail comment Dieu l'a conduit chez Corneille, ceux qui contredisaient se taisent et ils admettent que Dieu a donné la repentance pour la vie à ces païens. La repentance, c'est encore un don de Dieu. Il me fait la grâce de me repentir. Il m'ouvre les yeux sur moi-même et me montre ma misère et m'amène à pleurer sur mes fautes. Oh, que Dieu vous ait donné cette vraie repentance qui met dans nos cœurs un amour tout nouveau pour celui qui a pu nous aimer à un tel point et nous pardonner toutes nos fautes, toutes nos offenses. Nous avons le pardon dans le sacrifice du Christ de toutes nos offenses. Et je veux croire aussi que tous ici, vous avez reçu cette foi. Cette foi qui est un don de Dieu et qui s'empare de la grâce et qui vous est accordée. Dieu, dans son amour, nous fait grâce. Est-ce que nous avons saisi cette grâce? Cette grâce, nous la recevons par la foi. Et cette foi qui est un don de Dieu, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est cette disposition du cœur qui, lorsque nous lisons la parole, nous amène à croire ce que Dieu dit. C'est pourquoi il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lisez la parole et la foi vous sera donnée. Vous lisez cette parole et dans votre cœur vous entendez cette voix qui vous dit « c'est la vérité » et vous la croyez. Vous croyez ce que Dieu dit à votre sujet que vous êtes pécheur et perdu, et vous croyez ce que Dieu dit au sujet de son Fils, et ce qu'il nous dit au sujet de son Fils est la vérité. Il est notre Sauveur et il est notre Seigneur. Alors, en acceptant la grâce, nous recevons donc le don de la vie. Et alors seulement, nous pouvons prendre le départ et accomplir le dessein de notre vie et atteindre le but divin. C'est cela qui est une vraie révélation, quand tout à coup on le saisit, mais notre vie spirituelle, elle commence à ce moment-là au pied de la croix. C'est le début de notre salut, expérimentalement. Et alors, toute notre vie maintenant que nous sommes sauvés, toute notre vie est là devant nous. Et Dieu veut que nous oublions les choses qui sont derrière, que nous n'en restions pas toujours là à l'œuvre de la rédemption, repliés sur nous-mêmes, nous étions pécheurs et puis maintenant nous sommes sauvés, nous étions pécheurs, nous sommes sauvés, vous êtes des pécheurs, est-ce que vous êtes des sauvés, et puis c'est une litanie et on reste toujours là. Non, nous allons plus loin, oubliant les choses qui sont derrière. Maintenant vous avez une course à accomplir et le Seigneur veut que vos yeux maintenant soient fixés sur le but, sur le Seigneur Jésus, qui est comme un aimant et qui nous attire vers lui. C'est tellement merveilleux. Ce que le Saint-Esprit s'est efforcé de nous montrer, c'est ce dessein éternel de Dieu pour sa créature. La rédemption n'est pas intervenu pour nous sauver de l'enfer, disions-nous, mais pour nous permettre d'atteindre le but que Dieu s'est proposé en nous créant, nous associer à son Fils pour que nous soyons héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ et qu'un jour nous régnions avec lui en gloire. Voilà le but de notre salut. Et c'est seulement lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu que notre course spirituelle commence. Je vous ai souligné que l'œuvre de la croix allait de X à Y, mais ensuite de Y à Z, qu'est-ce que nous faisons ? Nous portons notre croix. La vie du chrétien consiste à porter sa croix. Et porter sa croix, ce n'est pas accepter certaines épreuves, c'est tout autre chose. Et nous allons voir ce que c'est que porter sa croix dans cette course qui nous mène de notre conversion à notre glorification. Devenus enfants de Dieu, quand nous commençons vraiment à avancer sur la voie de Dieu par excellence, pour son plaisir, pas pour notre plaisir, hein, pour son plaisir à lui, parce que nous avons renoncé à nous-mêmes, nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes. Notre salut, ce n'est plus ça qui compte, hein. C'est ce que Dieu veut. Nous sommes maintenant à lui, nous sommes sauvés. Alors nous ne sommes plus préoccupés de notre plaisir, de nos satisfactions, de nos honneurs ou de notre gloire. Maintenant, sur la voie par excellence, nous courons pour son plaisir à lui. Nous avons un autre sens d'intérêt. Nous aimons et nous désirons son plaisir. Nous courons pour son plaisir. Nous courons pour sa satisfaction. Nous courons pour son honneur. Nous courons pour sa gloire. Le visage tourné vers lui. Nous laissons derrière nous alors une multitude de croyants. Quand vous êtes entré dans cette voie par excellence, oui, et que vous courez cette course, n'ayant plus devant vos yeux que les intérêts du Seigneur, vous laissez derrière vous une multitude de croyants. nous sommes obligés de constater que beaucoup de chrétiens, en effet, s'imaginent s'être engagés dans cette voie, mais ils se trompent. Car seul, je le souligne, le chemin de la croix permet d'y marcher. Et c'est à cette vie-là que nous avons été destinés dès le tout commencement. Il n'existe nulle autre vie. D'autres enfants de Dieu vont se débattant avec eux-mêmes. Ils ont le désir sérieux d'embrasser le chemin de la croix, mais sont déconcertés par ce qu'ils rencontrent dans la vie. Et ils ne s'en sortent pas. Beaucoup se sont laissés charger et opprimer, je dirais, par des problèmes imaginaires, inventés et imposés par l'ennemi, qui est déterminé à rendre cette voie céleste impossible à suivre et différente de ce que Dieu a voulu. Mais, et c'est là ma joie ce soir, Satan ne peut arriver à ses fins. Il n'y parviendra pas si nous savons discerner ce qui nous arrive. Car Dieu nous a tracé un chemin si clair que n'importe qui peut le suivre sans trébucher ni s'égarer. Mais ce qu'il nous faut discerner ce soir, c'est quelles sont les sources de nos difficultés. Vous n'avez pas réalisé certaines choses du tout depuis l'année dernière. Quelles sont les sources, au fond, de nos difficultés? Ce que nous sommes appelés à discerner, c'est de reconnaître si nos difficultés viennent de Dieu. Est-ce que les difficultés que vous rencontrez pour réaliser cette vie qui vous mène vers la gloire, est-ce que vos difficultés viennent de Dieu? Ça, c'est le premier point. Secondement, est-ce que vos difficultés viennent de l'ennemi? Troisièmement, vos difficultés sont-elles le résultat de facteurs naturels ou d'un choix réfléchi ou irréfléchi que vous avez fait? Nos difficultés sont-elles le résultat de facteurs naturels ou d'un choix réfléchi ou irréfléchi que nous avons fait? Dieu veut que dans toutes nos difficultés, nous arrivions à connaître sa pensée et à découvrir ses intentions. Oh mes amis, comme nous rejoignons le thème de ce matin. Découvrir la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, les pensées de Dieu. Si nous étions occupés de ces pensées. Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Bien, je vais être occupé maintenant à connaître la pensée de Dieu dans tout ce qui m'arrive. Et je voudrais découvrir ses intentions. Alors les difficultés les plus communes rencontrées par le croyant, on peut les classer en quatre groupes. Je parlerai tout d'abord du châtiment éducatif. Deuxièmement, de la moisson de ce que nous avons semé. Troisièmement, de l'oppression. Et quatrièmement, de l'obstruction. Le châtiment éducatif est un acte de Dieu. Selon Hébreux 12, devenu enfant de Dieu, j'ai maintenant pour Père Dieu lui-même, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, qu'est-ce que je dois entendre? Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, verset 5 du chapitre 12 des Hébreux. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Maintenant que je suis l'enfant de Dieu, je bénis Dieu d'être un père pour moi et de me corriger jour après jour quand il estime bon de le faire. Il n'a pas à me demander la permission. S'il estime pour me redresser que j'ai besoin de la verge, eh bien, il fouette le fils et qu'il agrée. Et un jour, nous le bénirons pour ses châtiments. Car nous savons que notre Père nous châtie toujours avec sagesse et avec mesure. Et nous le remercions pour la discipline qu'il exerce sur nous. Et nous savons que Dieu nous aime, justement, dans ces moments-là, parce que nous éprouvons qu'il s'occupe vraiment de nous. Il s'occupe de nous. Ce n'est pas quand un croyant est châtié par le Seigneur qu'il doit se désespérer. Il doit au contraire le louer et le bénir. J'ai un père et il ne me laisse pas. Il fait mon éducation. Et de savoir que mon père sait me redresser quand j'ai un manquement, cela, eh bien, m'amène à la louange après m'avoir conduit à l'humiliation. Nous sommes heureux de pouvoir nous humilier devant le Père et de lui dire comme tu as raison, merci de m'enseigner de cette façon, tu ne veux pas que je m'égare. Nous trouvons donc réconciliés d'avance avec tout ce qui peut nous arriver. C'est tout à fait normal, je suis maintenant l'enfant de Dieu. Et je supporte le châtiment avec reconnaissance. Verset 7. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et ça rejoint le psaume 119 qui dit « Avant que je fusse affligé, j'errais. Mais maintenant, je garde ta parole. » Et ce que nous savons, c'est qu'il n'y a jamais de colère du côté de Dieu. Il n'y a plus de colère. Il fait notre éducation, mais sans colère. J'accepte donc maintenant la discipline du Seigneur et les châtiments qu'il trouve bon de m'imposer. Et maintenant, le deuxième point, c'est la moisson. La moisson est le résultat de la loi naturelle de cause à effet. Je dois discerner dans mes difficultés, les difficultés que j'ai comme dans ma vie chrétienne, est-ce que c'est simplement la moisson de ce que je sème? Si nous violons les lois naturelles, la nature se charge de nous infliger le châtiment qu'elle nous doit. Si par exemple, je m'expose au soleil, qu'est-ce qui m'arrivera? Je n'ai pas à me plaindre des brûlures, ni des maux de tête que je puis avoir, parce que j'ai trouvé bon de me mettre au soleil. Je moissonne ce que j'ai semé. Alors, je pense qu'il y a une foule de maux et de misères dont nous pourrions être épargnés si nous veillions à ne pas transgresser simplement les lois naturelles. Or, il y a une foule de chrétiens, de gens qui se disent sauvés et qui continuent de transgresser les lois naturelles. Vous fumez, bon, c'est votre affaire, mais le jour où vous fumez, bon, c'est votre affaire, mais le jour où vous avez le cancer des fumeurs, ne vous plaignez pas, ne dites pas pourquoi Dieu a-t-il permis cela. Si vous vous livrez comme chrétien à des excès de table et que finalement vous deviez souffrir de maux d'estomac, ne vous plaignez pas. La moisson est le résultat de la loi naturelle de cause à effet. Nous serions abasourdis si nous apprenions la somme de misère qui est imputable à la violation inconsidérée des lois naturelles, même chez les chrétiens. La nature se charge elle-même de nous infliger le châtiment qu'elle nous doit. Il y a deux autres formes de difficultés éprouvées par les chrétiens résolus à marcher avec Dieu et d'entrer dans son plan. C'est l'oppression et l'obstruction de Satan. Le diable est un semeur d'obstacles, et ses méthodes sont légion. Il se sert parfois de la fiction pour obséder l'entendement, pour tourmenter l'esprit. Le plus souvent, c'est dans notre sphère habituelle d'activité qu'il vient se faufiler. Le Christ était prompt à déceler l'origine de tels obstacles, qu'il s'agisse de Pierre ou de l'ennemi se servant de Pierre. Daniel savait quand c'était l'ennemi qui mettait son œuvre en échec et en retardait l'accomplissement. Paul n'était pas aveugle aux entraves que lui suscitait Satan. Lisons 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Et nous verrons que souvent Paul ne dut résister à Satan. Sur cette voie par excellence de l'accomplissement de l'intention de Dieu, la chose essentielle est naturellement de nous occuper de notre Seigneur. Mais nous ferons guère de progrès si nous ne découvrons pas la nécessité qu'il y a pour nous d'être vigilants et de savoir discerner les ruses de l'ennemi. Mais porter sa croix est quelque chose de tout différent. La croix, la vraie croix, ne vient jamais sans être sollicitée, alors que la verge est toujours imposée. Certaines épreuves surviennent comme des conséquences naturelles, nous l'avons vu. L'ennemi est toujours là pour nous susciter des entraves sans invitation. Dieu, de son côté, est toujours à la recherche de ceux qui s'engageront sur le chemin de la croix sans considération pour ce qu'il en coûtera au moi. Je suis convaincu qu'il est non seulement possible aux croyants de savoir quelle est sa croix, mais que c'est son devoir de savoir le reconnaître. Sur le chemin de Golgotha, le Seigneur s'écria, « Prends ta croix et suis-moi. » Il n'expliqua pas ce qu'il entendait avant d'avoir passé lui-même par la mort et d'être entré dans la vie qui est au-delà du tombeau. Élevé à la droite du Père, il révéla par l'apôtre Paul quel est le sens de sa croix et ce qu'elle réclame de chacun de ceux qui veulent le suivre. Paul ne dit jamais « Prenez votre croix ». Il proclame que la croix du Christ a déjà triomphé et il invite le croyant à entrer dans le triomphe du Seigneur. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 4 qu'il nous donne le sens de la croix que nous avons apportée. Après avoir décrit son propre ministère, il indique la cause des difficultés auxquelles il se heurte. Portant toujours dans le corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps mortel. Ce que cette phrase représente pour chaque individu, le Saint-Esprit est peut-être seul à pouvoir le faire connaître. Mais en réalité, c'est toujours le Christ qui de nouveau perd sa vie en nous et par nous en faveur des autres. La vocation consiste à adopter la manière divine de vivre, qui est un processus de mort. C'est un privilège que nous choisissons de plein gré. Il ne nous est jamais imposé. Il n'a rien à voir, comme on l'imagine souvent, avec les épreuves qui sont communes à toutes les sociétés humaines. Affliction, maladie incurable, perte d'argent, ou même la mort d'un être aimé. Dire de l'une de ces choses, c'est ma croix, et je dois la supporter à cause de Jésus, cela dénote un malentendu fondamental sur la vraie nature de la croix, dans le sens où nous l'entendons, un principe intérieur qui fait partie de la constitution même des pèlerins engagés dans la voie céleste. Le jour où nous découvrons l'intention suprême de Dieu pour notre vie et que nous adoptons le mode de vie céleste, nous pouvons nous attendre à être malmenés de la façon la plus outrageuse par ceux qui essayent de neutraliser notre influence. Quand un chrétien est déterminé à obéir à Dieu à tout prix, le pire qui lui arrive n'est pas déclenché par les puissances de l'enfer. Ses meilleurs amis, sa parenté, tous ceux auxquels il est attaché, ce sont ceux-là qui considèrent comme leur devoir envers Dieu de lui aider à retrouver la bonne voie et des conceptions plus saines de la vie. Bien matériel, précieux lien de famille, position sociale, il ne faut pas s'étonner si Jésus avertit ceux qui voulaient le suivre, il devait se détacher de tout. Mais il est une joie intérieure qui est bien connue de ceux qui sont prêts à tout endurer pour atteindre le but. Avec le Seigneur Jésus, qui tourna sa face de Jérusalem pour y réaliser le dessein du Père, nous pouvons partager cette joie. Quand il appelle, il n'y a pas d'autre issue. Il faut le suivre. Ce n'est que par le chemin de la croix qu'on peut réaliser une destinée divine. Ceux qui perdent pour lui leur vie, leur santé, leur réputation et le reste, supportent avec joie et virile souffrance de leur vocation. En terminant, comprenons que la plupart de nos difficultés ont quelque chose à nous apprendre. À certaines d'entre elles, qui sont des obstacles suscités par l'ennemi, nous devons opposer une ferme résistance, c'est non, non et non, arrière de moi Satan. D'autres doivent nous amener à l'humilité et à la repentance. Il est dès lors très important de savoir quelles difficultés doivent être endurer avec patience et même avec joie. Le chrétien est donc sans cesse ramené à la prière pour s'enquérir auprès du Seigneur au sujet de quelque forme d'adversité qu'il rencontre sur son chemin. Par la sagesse reçue d'en haut, il discerne la source de ses épreuves et réagit avec intelligence et maturité, ne se laissant arrêter par aucune circonstance, afin de courir vers le but qui est devant nous. Je demande que cette grâce nous soit vraiment donnée ce soir. Amen. J'ai sur le chemin de la sanctification pour marcher sur celle-là. Allez, qui nous donne pour que nous puissions entrer dans la cour. Et que quelque chose de Christ, quelque chose de ton caractère dans nos propres vies. Seigneur, poursuis ton œuvre, et que ce temps ne se termine pas sans que tu nous donnes une pleine, complète révélation de ce que tu as.